au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne-Françoise Dumont.
Bonjour cher Jean Prouvot.
Bonjour Anne-Françoise.
Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un baptême, celui de votre dernier livre paru chez Bordas au cours de cette année 2007. Il s'agit d'un dictionnaire, vous connaissant, nos auditeurs s'en doutaient déjà, celui des citations de la langue française, 7000 citations d'hier et d'aujourd'hui, classées par mots-clés en 573 pages. Mais au fait, Jean, et avant toute autre chose, qu'est-ce qu'une citation ?
Ah, c'est une grande question, avec beaucoup de réponses, en fait. C'est difficile de définir une citation, et tout à l'heure, peut-être ce que nous ferons, d'ailleurs, c'est nous regarderons au mot « citation », comment c'est défini par d'autres. En ce qui me concerne, c'est vrai que je fonctionne toujours par synonyme. On dit citation, on dit pensée, on dit réflexion, on dit aussi idée. Et entre ces mots, la marge est très étroite. Alors, je n'ai pas voulu réfléchir en théoricien ou en rhétoricien ou en linguiste. Il m'a semblé qu'il fallait, comme on dit à l'ancienne, raison garder et offrir ce qui était spontanément perçu comme une citation. Et j'ai donc simplement choisi que toute pensée qui était forte, exprimée de manière pertinente, originale, plaisante, en une phrase ou deux, constituait ce que dans le vocabulaire courant, on peut appeler une citation. Parce qu'une page n'est pas une citation,
oui.
C'est un extrait. Deux mots, ça ne fait pas beaucoup. C'est rare que deux mots puissent être une citation. Mais comme toujours, il y a un juste milieu et... Nous sommes ici au sein de l'Académie. Je crois que c'est toujours un peu l'honnête homme qui l'emporte, c'est-à-dire cette raison qui fait qu'on mesure bien ce qu'est une citation. C'est ce qu'on peut, à la limite, dans un repas ou dans une dissertation.
C'était la clé de voûte de nos dissertations quand nous étions lycéens.
Donc, mes citations vont de une ligne à trois phrases. Bon, ça dépend aussi de la pensée qui est exprimée.
Bien sûr.
Alors, à quoi servent-elles ? Ça, c'est
oui.
Encore une autre
Bien sûr.
Question.
Alors, maintenant que nous savons très exactement ce qu'est une citation et en quoi elle diffère d'une pensée ou d'une réflexion, vous allez nous expliquer, Jean, quel rôle joue un dictionnaire de citation et pourquoi nous en sommes si friands.
Alors, la première réponse, c'est peut-être de se poser la question de l'utilité d'une citation. On va y répondre encore dans quelques instants, mais... il me semble que ça cimente un peuple. On a tous en tête des citations de Racine,
commune.
De Lamartine, Commune, Autant, Suspend
commune
ton
à
vol,
chacun, je
voilà.
Mmh.
Alors, on a des citations qui font partie du patrimoine. Ça cimente en quelque sorte un
oui.
peuple. On a aussi des formulations qui nous font réfléchir. On a aussi les citations qu'on choisit. Et d'une certaine façon, mon dictionnaire de citations, quand je dis bon, ça n'a rien de possessif, c'est qu'en fait...
Non, mais c'est quand même le vôtre.
Voilà, mais les citations qu'on choisit... Au-delà de celles oui. qui cimentent un peuple...
Ce ne sont pas celles que moi, j'aurais choisies, par
voilà,
exemple.
Voilà, et donc nous déterminent...
Bien sûr.
C'est en quelque sorte un portrait que l'on fait de soi-même, un autoportrait sans s'en apercevoir
Tout
quand on fait un dictionnaire de citations. Alors, à quoi, effectivement, sert un dictionnaire de citations ? D'abord, je pense que, de temps en temps, il rassure, à la manière d'un compagnon, d'un ami qui offre sans aide, sans... complication qui offre son aide, pardon. Et je vais prendre justement éducation. Tout à l'heure, là, j'avais une réflexion sur ce qu'était l'éducation. Alors, c'est vrai que c'est un sujet que tous, en tant que parents, grands-parents, on a en tête quand on a des enfants avec nous. Et à ce moment-là, on peut ouvrir un dictionnaire de citations et se dire, dans le fond, que pensent les autres sur le sujet. Et quand j'ouvre à éducation, je trouve... L'éducation consiste à nous donner des idées et la bonne éducation à les mettre en proportion. Voilà, une citation typique de Montesquieu, assez connue, qui, je dirais, cimente un peuple, et nous avions l'habitude d'utiliser ce genre de citation dans nos dissertations. Joseph Joubert, alors là aussi très connu, l'éducation ne consiste pas seulement à orner la mémoire et à éclairer l'entendement. Elle va bien plus loin. Alors, Michelet, quelle est la première partie de la politique ? L'éducation. La seconde, l'éducation. Et la troisième, l'éducation.
Oui.
Alors, de fil en aiguille, je vais chercher ce qu'est finalement élever un enfant,
oui.
Puisque les termes sont très proches. Et alors, c'est la page suivante, quasiment, deux pages plus loin. Et là, Nicolas de Champfort, il y a des hommes qui ont besoin de primer, de s'élever au-dessus des autres, à quelque prix que ce puisse être, tout leur est égal, pourvu qu'ils soient en évidence sur des tréteaux de charlatans, sur un théâtre, un trône, un échafaud. Ils seront toujours bien s'ils attirent les yeux. Et là, on voit bien que j'ai choisi le terme de « élever » au sens de « mettre plus haut
oui. ».
Mais ce n'est pas celui-là qui m'intéresse, c'est l'autre, parce que, évidemment, sous un mot, il y a plusieurs sens. Et je vois une pensée, et on y reviendra tout à l'heure, d'Arletty. Je n'ai pas été élevé, je me suis élevé. Et on voit, ça permet de...
Oui, là, elle utilise les deux acceptions du terme dans une même phrase.
Voilà, on y reviendra tout à l'heure aussi. Mais là, je vois par exemple Bertrand Blier qui disait dans Pensée et réplique, « À chaque fois que je cherche à m'élever, il n'y a jamais d'ascenseur. » Bon, ça, c'est des répliques de cinéma bon, qui, de temps en temps, m'ont permis de... Alors, oui, ça permet aussi de donner du panache, un discours.
Oui.
Ça permet de faire rêver, de surprendre. Alors, je ne sais pas.
Il apporte aussi... Une citation apporte aussi confirmation et contradiction.
Oui, alors ça tombe bien parce que tout à l'heure, je regardais le mot sport. Tout le monde dit le sport fait beaucoup de bien.
Oui.
Donc évidemment, on ne va pas dire le contraire. Oui. Faire du sport n'est pas négatif. Donc j'ai forcément des citations
corporé,
dans ce sens-là.
Corporé sano.
Guy de Maupassant, il disait « Il était fort alerte et gai, donnant tous ses jours au sport et toutes ses nuits aux fêtes. » On a tout à fait Maupassant dans cette affaire-là.
Oui.
Et puis... Après, je ne sais pas, Simone de Beauvoir, ses cheveux courts, son chemisier bien coupé, sa large jupe à plis creux, son allure sportive, sa voix hardie dénotait qu'elle avait grandi très loin de Saint-Thomas d'Aquin. Là, une petite pointe. Bon, Paul Morand, les Anglais répondent que seuls, ils ont conservé le véritable esprit sportif, pour qui le sport est un exercice, un jeu, un entraînement aux vertus morales, et non un massacre de records. Vous voyez, c'est la contradiction, en même temps les aspects positifs.
Oui.
Et j'en ai trouvé une. C'est pas facile. Totalement négative, en contrepoint, de Pierre Nodin, par exemple, dans La foire aux muscles, « Rien n'est moins moral qu'une épreuve sportive. Le vainqueur n'est pas toujours le concurrent le plus loyal et le plus énergique. Le tacticien l'emporte souvent, autrement dit le plus rusé, quand ce n'est pas le plus vicieux. » Donc vous voyez, là j'essaie de ménager non pas la chèvre et le chou, mais ménager des points de vue qui peuvent être différents. Et je peux avoir un avis tout à fait favorable au sport, mais c'est bon d'avoir aussi de la contradiction. Et bon, ça c'est aussi ça, nous surprendre. Alors, émouvoir, bien sûr, c'est pas des mots comme... je prends au hasard, peut-être tendresse. Si je prends le mot tendresse, je pense qu'on va avoir, si mes souvenirs sont bons, parce que vous savez, je les ai collectionnés, ces citations.
Oui, mais vous ne les avez pas toutes en tête, j'imagine bien.
Mais quand on arrive au bout des 7000, on ne se souvient plus de tout et on redécouvre parfois son propre dictionnaire. Et je lis tendresse. L'enfant, et c'est de Maurice Druon, elle est très belle, je trouve. L'enfant qui appréhende l'instant où la lumière va s'éteindre, persuade à sa mère que c'est par tendresse qu'il attend un baiser. Bon, c'est assez joli.
Oui, 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 oui.
Et si je prends Furetière, on est en 1690, et là, donc, c'est l'aspect surprenant du côté des vieux dictionnaires. Tendresse, sensibilité du cœur et de l'âme. La délicatesse du siècle a renfermé ce mot dans l'amour et l'amitié. Et puis, un peu plus loin, il dit « À l'égard des viandes, du bois, des pierres et autres corps qui ne sont pas durs, il n'y a point de mots en la langue pour exprimer cette qualité. Il faut essayer de mettre tendreur ou tendreté usage. » Ça n'a pas marché.
Non,
hein.
Ça se comprend.
C'est très laid. De voir qu'effectivement, on peut dire la tendresse d'une maman ou d'un papa, et on peut difficilement dire la tendresse d'une pierre, mais on peut dire d'une pierre qu'elle est tendre.
Oui.
Et donc, bon, ce sont des réflexions ça qui nous poussent.
Oui.
À aller plus loin. Et puis...
Peut nous rendre modestes aussi.
Nous rendre modestes. Alors, quand je prends les citations qui concernent un sujet qui nous est cher, les mots. Les mots, évidemment, il y a beaucoup de citations qui correspondent. Mais comme je prends tout dans l'ordre chronologique, tout à l'heure, on évoquait des citations très courtes. La première, « À moi compte de mots
».
Bon, on est bien obligé de la mettre, de Corneille.
Molière,
un peu plus tard, 1673, puisque systématiquement, j'ai mis la date et disons, l'œuvre d'où c'était tiré. « Par une antipathie, ou juste ou naturelle, nous avons pris chacune une haine mortelle pour un nombre de mots, soit ou verbes ou non, que mutuellement nous nous abandonnons. Contre eux, nous préparons de mortelles sentences. » On a reconnu les précieuses ridicules ou les femmes savantes. Et puis un peu plus loin... Je ne peux pas éviter, car le mot, qu'on le sache, est un être vivant. Hein. Les mots sont les passants mystérieux de l'âme.
Oui.
Ça, c'est Victor Hugo.
Oui.
Mais une, par exemple, que je vous en ai donné une très courte, « À moi, compte de mots
».
Voilà une très longue, mais qu'on ne peut pas couper. Et qui, je crois, vraiment peut rendre des services à celui qui les consulte pour justement avoir des idées sur le mot. Les mots, c'est de Gaston Bachelard, La poétique de l'espace, donc au PUF en 1957. Les mots, je l'imagine souvent, sont des petites maisons avec cave et grenier. Le sens commun, séjourne au rez-de-chaussée, toujours prêt au commerce extérieur, de plein pied avec autrui, ce passant qui n'est jamais un rêveur. Monter l'escalier du mot, c'est de degré en degré abstraire. Descendre à la cave, c'est rêver. C'est se perdre dans les lointains couloirs d'une étymologie incertaine. C'est chercher dans les mots des trésors introuvables. Monter et descendre, c'est la vie du poète.
Très joli.
Vous voyez, c'est très beau.
Très joli. Ça.
En même temps, c'est sur le poète. Donc, à poète, je renverrai, bien sûr, à mots. Alors, il y en a de toutes sortes. Hein. Dutronc. Alors, j'ai parfois mis Jacques Dutronc. Les idées, ça va et ça vient, sans aucune importance. Ce sont les mots qui sont difficiles. Et on sent bien qu'effectivement, une chanson de Dutronc, le texte a une certaine importance.
Bien sûr.
Ben, c'est de trouver le mot.
Bien sûr.
Qui l'emporte. Donc, là, c'est, tout ça est assez...
Alors, le dictionnaire de citations nous donne envie de le compléter. Et finalement, d'en rédiger un.
Ah oui, vraiment. Oui.
Et le lecteur, lui, ce qu'il aime dans un dictionnaire de citations, ça c'est mon point de vue à moi, c'est butiner.
C'est vrai.
Hein, aller d'un mot à un autre.
C'est vrai.
C'est le plaisir du...
plaisir de, d'aller au hasard des mots. Et...
de récolter son miel au hasard des mots.
À dire vrai, comme toujours, une fois que l'ouvrage est imprimé, il peut y avoir une ou deux coquilles par-ci par-là qu'on veut corriger. Donc, j'en ai commencé la relecture pour enlever une ou deux coquilles qui traînent.
Et là, est-ce que vous vous étonnez vous-même ?
J'oublie de chercher les coquilles et je me prends à sourire en ouvrant au hasard.
Vous redevenez lecteur.
Oui, et ça, c'est vrai que c'est très agréable.
Bien sûr.
Écoutez, on va faire l'expérience. Vraiment,
allons-y.
Vous êtes devant moi pour voir.
Tout
je prends au hasard. Hein, et je tombe sur hésiter. Bon, alors hésiter, évidemment, on aura forcément Racine. Elle flotte, elle hésite, en un mot, elle est femme, de Attali. Et puis, dans les dictionnaires anciens, hésiter. Ne lire, ne parler pas hardiment, balancer, chanceler, pour voir si on fera ou entreprendra quelque chose. Quelques-uns aspirent lâche du verbe hésiter, mais la plupart la font muette, parce qu'il est plus doux d'en user ainsi. Okay. Vous voyez, on part d'hésiter, et on hésite sur la lettre H à l'instant, et c'est pour ça sans doute que je l'avais choisi. Et donc là, on a comme ça toutes sortes sur la même page, il y en aurait bien d'autres. Hein. Vous voyez, des choses terribles.
Oui.
Je vois, sur la même page, je vois heureux. Alors, de heure, issu du latin augurium, présage.
Oui.
Alors, il y a une citation de Blaise Pascal, tous les hommes recherchent d'être heureux. Cela est sans exception, quelques différents moyens qu'ils y emploient. Ils tendent tous à ce but. Et puis on est en 1975, cette fois-ci c'est Christiane Rochefort. Il aime trop de choses, votre bébé, madame. Il risque d'être heureux plus tard. C'est affreux, il faut lui donner des fessées. Le contrepoint. Et puis alors, 1905, un extrait du petit Larousse illustré parce qu'il y avait des exemples. Et l'exemple qui est donné en 1905, un peu avant la Première Guerre mondiale, est quand même assez pessimiste. Les gens heureux sont rares.
Eh bien,
voilà
c'est
ce qu'on trouve au mot
1905.
Heureux. Oui, en 1905.
Bon.
Donc, vous voyez, voilà
comment...
C'est-à-dire
c'était avant 1439.
Voilà, on butine, et on trouve toujours quelque chose qui est bon.
Alors, revenons à votre dictionnaire. Quel en est le principe de fonctionnement ? Où se situe son originalité et dans quelle famille pourrait-il être rangé ?
Je le voulais, parce qu'évidemment, des dictionnaires de citation, il en existe beaucoup.
Quand vous en est venue l'idée ?
Bah, à vrai dire, les éditions Bordas sont venues me contacter pour relancer une collection de dictionnaires, donc notamment les dictionnaires de synonymes, que j'ai révisé et qui a, je crois, donné un ouvrage intéressant. Il y avait aussi un dictionnaire de rimes, et c'est une personne qui a fait une thèse sur les rimes et la poésie qui s'est chargée de le mettre à jour. Je m'en sentais pas capable. Et puis, il souhaitait lancer un dictionnaire de citations. Au fond des choses, j'étais surtout chargé de trouver quelqu'un. Et j'ai dit, mais ça, j'ai très envie de le faire. Ça fait des années que je collectionne des citations et j'aimerais bien effectivement le faire. Alors, j'étais ravi. Ce que j'ai constaté très vite, c'est que les citations que je collectionnais pour le plaisir, pour beaucoup, m'ont été inutiles, parfois parce que je n'avais pas mis les références. Vous savez, quand on est sans idée de dictionnaire pour le seul plaisir, on ne marque pas d'où cela vient, on met simplement l'auteur et puis après, on est bien en peine de retrouver où on l'a lu. Alors, j'ai donc décidé d'être méthodique pour faire ce type de dictionnaire et J'ai donc adopté un plan que je crois original, qui fait la pertinence de dictionnaire. Il y a deux types de dictionnaires. Il y a les dictionnaires, comme chez Larousse ou chez Robert, qui sont intéressants et qui partent des écrivains, mis dans l'ordre alphabétique ou dans l'ordre chronologique. Et on a toutes les citations de La Rochefoucauld, toutes les citations de Blaise Pascal. Et il y a un index à la fin. Moi, j'ai décidé de partir des mots. Donc, la première chose, c'est que ce sont des mots qui sont en entrée, suivis des mots-thèmes, suivis de citations. Voilà. Et les mots sont mis dans l'ordre alphabétique d'un bout à l'autre du dictionnaire. Donc, je ne sais pas, là, j'ouvre au hasard. On va voir les, L-A-I-D.
Quel est le premier?
Abaissement, abaissé, abandon, abandonné. Et le dernier, alors, fonçons vite à la fin de l'ouvrage.
Z.
Z, le dernier, c'est zut.
Bon.
Oui, la politique. Ah, j'en fis, mon avis. Zut et Bran, et vous savez de qui c'est ?
Zut et Bran ?
Oui, Bran, c'était... Bon,
comment ça s'écrit, Bran ?
Bran, et c'est Verlaine qui dit ça dans ses œuvres posthumes en 1896. Et puis alors, on a Émile Littré, zut, interjection très familière par laquelle on exprime que les efforts faits pour atteindre un but sont vains et surtout qu'on s'en moque. Et donc, Littré, très...
Oui, zut est un mot que j'emploie souvent.
Correct,
c'est un mot
c'est un mot gentil.
Très gentil. Voilà. Qui sonne bien.
Oui, qui sonne bien. Donc, ça va de abaissement jusqu'à zut.
Bon, donc mot-thème.
Mot-thème. Et alors, quand on dit mot-thème, il y a aussi différents types de dictionnaires de mot-thème. Parfois, vous avez le mot « liberté ». Et puis, à l'intérieur, des citations qui ne contiennent pas le mot « liberté ». Moi, j'ai fait en sorte qu'il y ait systématiquement le mot qu'on trouve en entrée. Donc, on trouvera des citations,
d'accord,
si c'est le mot « liberté », avec le mot « liberté », pas simplement des idées, parce
que sinon, on se perd
un peu.
Oui, oui.
Et ceux qui font cela, c'est généralement qu'ils ne mettent pas beaucoup de mots-thèmes. Moi, j'en ai mis beaucoup. Donc,
les mots, à ce moment-là, la rubrique devient panier.
Oui, voilà, c'est ça.
Trop vaste,
enfin, bon sens.
Alors ensuite, vous donnez l'étymologie du mot.
Alors, après, c'est ça peut-être une des originalités, je crois, de l'ouvrage. C'est que j'ai pensé, et tout à l'heure j'ai omis de le dire, que systématiquement, quand on évoque une citation, c'est pour avoir du panache, c'est pour avoir des idées, c'est pour avoir, en quelque sorte, des contrepoints aussi à ses idées.
Mais pimenter son discours.
Pimenter son discours. Et c'est aussi mieux connaître le mot ou l'idée.
Oui.
Et il n'y a pas d'autre moyen, à mon sens, pour mieux connaître le mot et l'idée que d'avoir l'étymologie. Et là, bon, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire. Et donc, systématiquement, j'ai donné l'étymologie des mots. Alors, qu'est-ce que ça peut donner ? Ben, je vais essayer d'en trouver quelques-unes qui correspondent bien. Si je prends, par exemple, sport. Hein, je viens de donner tout à l'heure sport.
Oui.
Si je prends sport... emprunté en 1828 à l'anglais sport, passe-temps, divertissement. Bon, je ne suis pas content de moi parce que ça venait de desport, qui est un mot français.
Oui.
Hein, donc, dans la correction, j'ajouterai cela.
Oui.
Mais il y a bien d'autres étymologies qui peuvent être, je vais prendre au hasard, suspect, du latin suspectus, qui éveille des soupçons, dérivé de suspicere, regarder de bas en haut. Donc, vous voyez, on donne à chaque fois, ici, l'origine. J'ai en face, sur la même page, supplice, emprunté au latin supplicium, je prononce comme en latin, supplication, odieux, offrande, et aussi punition, châtiment. Mot dérivé de supplex, qui plie les genoux. Vous voyez, ça permet quand même, si vous avez...
d'approfondir, et de s'apercevoir que la langue oublie l'étymologie.
Bien sûr, bien sûr.
Mais retrouver l'étymologie enrichit. Redonne de la substance au mot.
Voilà, je viens de le rouvrir au hasard, je tombe sur rhinocéros. Bon, du grec rhinokéros, composé de rhinos nez et de kéras, corne.
La corne.
Voilà. Et alors, je tombe en dessous, parce que je ne me souviens pas toujours de mes étymologies. Vous savez, parfois, on écrit avec passion et puis on oublie. D'ailleurs, un dictionnaire, c'est aussi fait pour ne pas oublier et être sûr de le retrouver dans l'ordre alphabétique. Il y a un peu de ça, même quand on en fait un. Je vois ricanement de ricaner, de la forme normando-picarde, recaner, brère, du francique kini, mâchoire.
Ah bon ?
Donc, ça permet à quelqu'un qui cherche une citation sur le mot ricaner, bien de trouver peut-être d'autres pistes, hein, puisque c'est aussi ça, hein, la possibilité offerte par un dictionnaire de citation, de s'envoler ailleurs. Alors c'est donc l'originalité première, mettre l'étymologie. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres dictionnaires de citation qui mettent les étymologies. Alors ensuite...
des pensées.
Voilà, j'ai choisi sous Donc, on va
des pensées d'écrivains du XVIe au XXIe siècle.
C'est cela. Dans l'ordre chronologique et systématiquement avec si je prends Langage, la première est de 1621, par Théophile de Viau, la seconde est de Fagan en 1737, ensuite c'est Constantin de Volney en 1791, puis Balzac en 1837, puis Henri Murger en 1848, puis Paul Valéry en 1926, puis Raymond Queneau en 1944, puis Saint-Jean Perse en 1944, puis Marguerite Duras en 1953, Jean-Marie Le Clézio en 1973, Yves Simon en 1974, Jean Tardieu en 1978, etc. Donc je peux aller jusqu'à 2001 ou 2005 ou 6, disons, il y a des citations qui correspondent. Donc là, citation dans l'ordre chronologique avec systématiquement, quand je mets par exemple Jean Tardieu, œuvre posthume du professeur Froppel chez Gallimard en 1978. Donc on a et l'éditeur, quand c'est récent,
donc on peut la retrouver.
Le nom de l'œuvre, voilà. Alors, je ne suis pas allé jusqu'à la page, parce que là, il aurait fallu préciser l'édition, etc. Et puis, ça aurait été un peu lassant. Mais je crois que c'est très important d'avoir même le prénom. Combien de fois je me suis surpris à être embêté parce que je ne me souvenais plus du prénom de la personne.
Bien sûr, il peut y avoir confusion.
Quand vous avez C, est-ce que c'est Claude, est-ce que c'est Charles, etc.
Bon, tout à fait.
Évidemment... quand c'est V, Hugo, on n'a pas de problème. Mais pour d'autres écrivains moins connus, c'est nécessaire d'avoir vraiment le prénom, le nom, l'œuvre et la date.
Jean, mot thème, étymologie, pensée, forte, élégante, originale. Quatrièmement, des extraits des dictionnaires anciens. Ça aussi, c'est nouveau.
Alors voilà, si l'étymologie offre vraiment l'histoire du mot, il y a une autre manière de présenter non pas l'histoire du mot, mais le mot tel qu'il est apparu autrefois dans les dictionnaires anciens, c'est de donner effectivement des extraits, des ouvrages qui vont de 1571, puisque j'ai utilisé une quinzaine d'ouvrages pour ne pas perdre non plus le lecteur. Le premier est celui de Maurice de Laporte en 1571, qui est un dictionnaire d'épithètes. Et puis après, bien sûr, l'Académie française en 1694, Richelet en 1680, Furtière en 1690, des extraits de l'Encyclopédie, des extraits de Ferraud en 1788, des extraits de Maurice Lachâtre en 1856, de Littré, y compris, alors le dernier, c'est le Larousse, le petit Larousse de 1905.
Tous nos compagnons de notre émission...
Voilà.
Favorite. Alors, c'est n'est rien et toujours.
Je vais vous dire pourquoi. D'abord, bon, soyons francs. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un véritable bonheur que de vivre au milieu des dictionnaires. Bon, et ici à l'Académie, on est vraiment.
C'est le lieu par excellence.
Voilà, dans une sorte de paradis. Bon, j'ai aussi chez moi où j'ai, disent les journalistes, c'est 10 000 dictionnaires. Et c'est un véritable plaisir que d'en extraire. Pour les gens que j'aime, donc mes lecteurs et mes amis, des extraits. Et donc, j'avais les armes, en quelque sorte, pour pouvoir trouver de belles citations. Alors, je ne sais pas, ça peut être rappeler une ancienne prononciation, par exemple.
Oui.
Alors, quand j'ai la lettre C, C, je l'ai traité parce qu'il y a un poème de Paul Verlaine. « Je vais, bras ballants, sans limite et sans but, ainsi qu'un fiacre à l'heure, pâle à jeun, et trouver trop C. » par Gilles qui pleure. Bon, on n'épilogue pas sur ce C. Et dans les dictionnaires anciens, alors quelle citation ai-je trouvé ? Quelque chose qui sans doute étonnera bon nombre de nos lecteurs qui ne sont pas familiers avec le XVIIe siècle, ce qui est normal. Le C, alors c'est dans la préface du dictionnaire de l'Académie française en 1694. C'est un extrait. Le C se prononce quelquefois comme un G. Ainsi, on prononce segret et non pas secret. Second et non pas second. Glaude et non pas Claude. Quoique dans l'écriture, on doit absolument retenir le C. Et d'un seul coup, on découvre qu'au XVIIe siècle, on ne disait pas Claude, mais Glaude, et qu'on ne disait pas secret, mais segret.
On dit toujours second.
Et on dit toujours second. Donc voilà, par exemple, une ancienne prononciation. Rappelez aussi combien on pouvait être rude.
1694, c'était la première édition.
La première édition du dictionnaire de l'Académie.
Rappelons-le.
Par exemple, éternuement. Et dans les dictionnaires anciens, pour montrer que parfois c'était rude, cru, dans les dictionnaires anciens, voilà ce que dit Antoine Furtière en 1690, et donc que j'ai donné comme citation dans cette rubrique, après étymologie, après des citations littéraires, la rubrique est dans les dictionnaires anciens, pour éternuement, convulsion du cerveau par laquelle il se dégage de quelque ventosité ou humidité qui l'incommode lorsqu'elle sorte par le nez avec effort et altération du visage. Vous voyez, c'est cru. Ça, c'est typiquement les dictionnaires du XVIIe siècle.
Oui.
Foudre. Alors, foudre, J'ai une citation de Saint Lambert, mais des traits enflammés ont sillonné la nue, et la foudre en grondant roule dans l'étendue, elle redouble, vole, éclate dans les airs. Ça, c'est la citation littéraire. Et dans les dictionnaires anciens, exhalaison grasse et sulfurée qui s'enflamme par le choc des nues et qui, en sortant avec violence, fait un grand bruit et des effets extraordinaires sur la terre. Là aussi, c'est Furtière. Et j'ose pas aller pour montrer que parfois, pas si loin que cela,
oui.
Il y a des conceptions qu'on va repérer comme complètement dépassées. Je prends le mot crétin.
Par exemple.
Le mot crétin fait partie de, bon, des mots de la langue.
Oui.
Et Jules Edmond de Goncourt, citation littéraire, « Qu'est-ce que vous disiez? Que j'étais un idiot, un crétin, une brute? Mais nous passons notre journée à nous dire de ces petits mots-là dans le dos. » Oui, bon, ça, c'est typiquement les Goncourt. Aragon, on sait que le propre du génie est de fournir des idées aux crétins une vingtaine d'années plus tard. Bon, ça, c'est oui, joli, bon, oui. D'Aragon. Mais alors, que dit-on dans les dictionnaires anciens? Et là, ça n'est pas très ancien, parce qu'en fait, c'est tiré d'un dictionnaire très difficile à trouver, que j'ai la chance d'avoir, qui est le nouveau dictionnaire de la langue française de Pierre Larousse, mais en 1856, le tout premier, qui faisait un tout petit volume. Et que dit-il? Crétin, dans la partie encyclopédique. Individu affecté d'un idiotisme complet et d'une grande difformité physique, caractérisé par une taille courte, une tête petite et aplatie aux tempes, ah oui. Un nez épaté, des yeux rouges et chassieux, une bouche là là. Béante d'où découle
c'est
constamment...
l'homo crétinus.
Oui, c'est ça, d'où découle constamment la salive et des gloîtres plus ou moins volumineux le long du cou. Il a la peau jaune et flétrie et les sens peu développés, excepté celui de la vue. Il est apathique et d'une malpropreté repoussante.
Ah oui.
Or, là, bon, on ne peut pas commenter, mais parfois on a envie de mettre des notes. En fait, au XIXe siècle, on a nettement
le
fait la distinction oui, entre crétin, idiot, imbécile.
Oui.
Imbécile, bon, je ne vais pas le prendre ici, il est aussi dans le dictionnaire,
oui.
C'était celui qui était faible, sans vigueur. Crétin, c'était quelqu'un de très malade, en fait.
Oui, hein, oui, oui, donc, oui. On est dans clinique.
Alors, il y a beaucoup de choses comme ça. Ça peut être aussi, et alors là, je vais essayer de vous en trouver un qui correspond bien, et c'est surtout de la part... Ah ben, mot, justement. Tenez, je vais chercher mot. Ça peut être un dictionnaire méconnu de nos contemporains, très connu des académiciens et de toutes les personnes qui se passionnent pour le XVIIIe siècle, tiré de Girard, qui avait offert un dictionnaire de synonymes. Le mot est de la langue, l'usage en décide. Le terme est du sujet, la convenance en fait la bonté. L'expression est de la pensée, le tour en fait le mérite. La pureté du langage dépend des mots, sa précision dépend des termes et son brillant dépend des expressions. Vous voyez, là, c'est
très
un dictionnaire
complet.
Ancien.
Très complet.
Très complet et qui permet quasiment de rejoindre...
Quelle année, ça?
Alors ça, c'est en 1736 par Gabriel Girard.
Ça n'a pas vieilli.
Ça n'a pas vieilli et Girard est coutumier du fait. Il y a beaucoup de citations, d'ailleurs... Ça et là, de Girard, en feuilletant comme ça, je retrouve une autre. Vous voyez, ici, c'est le verbe, ou œuvre, c'est le mot œuvre. Œuvre dit précisément une chose faite, mais ouvrage dit une chose travaillée et faite avec art. Le mot d'œuvre convient mieux à l'égard de ce que le cœur et les passions engagent à faire. Le mot d'ouvrage est plus propre à l'égard de ce qui dépend de l'esprit ou de la science. Donc là c'est, je suis dans un autre registre. Les dictionnaires anciens peuvent aller du plus cru au plus surprenant, au plus subtil. Et vraiment, chaque fois que j'ai systématiquement, pour chacun des mots, cherché s'il y avait quelque chose d'intéressant dans les dictionnaires anciens. Et quand je l'ai trouvé, je n'ai pas hésité à le mettre. Et d'où il n'y a quasiment pas une page dans laquelle il n'y ait pas les dictionnaires anciens. C'est quelque chose bon, alors qu'on ne trouvera nulle part.
Non, ça c'est nouveau.
Parce que je crois effectivement que c'est généralement impossible à dénicher. Il faut les
bien
avoir,
sûr,
il faut passer
sûr.
Des heures en Bibliothèque
bien
nationale.
Sûr, bien
moi je les avais sous la main et j'ai vraiment désiré offrir en quelque sorte un bouquet un peu de ces extraits de dictionnaires qu'on ne trouvera pas ailleurs. C'était ça l'idée.
Rubrique suivante, Jean. Et aussi les pensées de...
Oui.
Cette fois, des pensées de personnalités qui ne sont plus des écrivains et qui appartiennent à différentes sphères.
Oui, c'est l'idée que quand on évoque d'abord les écrivains, eh bien, on se retrouve aussi, à un moment donné, avec des gens qui ne sont pas des écrivains, qui peuvent être des chanteurs, qui peuvent être des chanteurs, des acteurs, qui
des
peuvent
baladins.
Être aussi des hommes de la politique.
Oui. Hein,
et qui, à ce moment-là, interviennent. Bernard Pivot, par exemple, n'est pas vraiment un écrivain, mais c'est un homme de lettres, au sens très fort.
Il côtoie les écrivains.
Voilà. Et donc,
il les a côtoyés toute sa vie.
Tout à l'heure, j'évoquais Dutron, mais Gainsbourg aussi, parfois, est très surprenant. Hein. Regardez, là, je suis à la page langage. Donc, je passe sur une vingtaine de citations consacré donc aux écrivains. Je passe sur la notion de dictionnaire et les pensées de Gainsbourg. Dans la vie moderne, il y a tout un langage à inventer, un langage autant musical que des mots. Tout un monde à créer, tout est à faire. Bon, une citation qui m'a plu. Si je me reporte tout à l'heure justement avec le mot justement mot. Alors là, il y a énormément de choses. Si on met de côté les dictionnaires anciens, je vais retrouver... Alors, écoutez, il faut que je feuillette mon ouvrage. Voilà. Alors, François Mitterrand.
Oui.
Il y a des citations de De Gaulle,
qui
de Mitterrand.
Écrivain.
Mais oui. Les mots en « isme » ne résolvent aucun problème. Bon, c'est intéressant. Charles Danzig. Les mots n'ont pas de valeur en soi. Ils sont un sens, ou plusieurs. Et c'est encore une fois l'écrivain qui leur donne une valeur. Les mots sont faits pour cacher la pensée. Et Patrick Fandiot, il mérite d'être célébré. Les mots, les expressions, locutions, interjections, tous ces Français parlés en francophonie qui font sans doute plus pour notre sentiment d'appartenance à la communauté nationale que tous les hauts machins de la République. Bon, parfois, c'est un peu contestataire.
Oui.
Mais en même temps, on voit bien la pensée ici qui s'exprime.
Et le fameux abracadabrantesque de notre dernier président.
Alors, abracadabrantesque, ça vous me prenez dépourvu. J'espère que je l'ai indiqué et que je ne l'ai pas raté. Abracadabrant. Alors, du grec kabbalistique abraxas, amulette. Donc, vous voyez, l'étymologie est donnée.
Oui, c'est très
Ensuite,
important.
Une citation littéraire de Jean Anouilh. Je dois leur raconter tant d'histoires abracadabrantes pour les endormir tous les soirs. Et j'ai justement épuisé mon stock de contes de fées. C'est d'Anouilh. Et dans les dictionnaires anciens, abracadabra, c'est furtière, terme barbare qui se trouve dans les lettres de voiture. C'était une inscription qui servait de caractère pour guérir plusieurs maladies et chasser les démons. Donc, vous voyez, tout n'y est pas, hein, mais on a toujours... J'ai aussi essayé, je dois l'avouer, de... Je n'ai jamais regardé les concurrents.
Oui.
Donc, obligatoirement... Il y a des citations qui sont les mêmes, parce que quand on se retrouve avec Lamartine, avec Racine, Molière, il y a forcément des mots qui sont là.
Des rencontres.
Des rencontres. Mais en même temps, ça m'a permis d'être original.
Oui.
Et donc d'offrir des mots dans d'autres domaines. Et donc là, c'est quelque chose... Je vois Dutron encore, on va croire que c'est le hasard, mais j'en ai pas trop mis de Dutron, mais je tombe là sur « vie ». Dans les dictionnaires anciens chez Richelieu, la première définition du mot « vie », c'est l'union de l'âme avec le corps. C'est très joli.
Oui. Hein.
Et Littré, celui qui veut faire un emploi sérieux de la vie doit toujours agir comme s'il avait à vivre longuement et se régler comme s'il lui fallait mourir prochainement. Ça, c'est Littré dans son dictionnaire et qui, en quelque sorte, bon, énonce une morale de vie. Et derrière, et les pensées d'eux, je vois Dutron. Un jeu de mots, mais il en faut aussi. Je trouve que la citation doit être aussi festive.
Oui.
Je suis pour l'augmentation du goût de la vie. Bon, c'est un jeu de mots, mais je trouve que ça manque pas de charme. Et on a là, bon. Alors ça, c'est vraiment le... J'ai cité de temps en temps Depardieu, par exemple.
Oui.
Il a écrit deux livres. Et notamment Vigne, Vigneron, on connaît sa passion.
Voilà.
On n'imagine pas le travail d'un vigneron, la difficulté de son art. Il faudrait lui donner le mérite des arts et des lettres à cet homme-là. Et on a comme ça un certain nombre de réflexions qui vont...
Et alors, dernière rubrique, Jean, les renvois.
Alors, les renvois, c'est en fin d'ouvrage...
les réseaux entre les mots.
Voilà, alors si je prends par exemple le verbe... je tombe sur moi et moi-même ici. Voir, aimer, bavard, beaucoup, confiance, gouverner, honneur, lutte, maître, médiocre, oser, penser, planer, prise de position, repos, sensible, société, souvenir, trace, vengeance, vous. Alors, je vais un peu le prendre au hasard. On va chercher, je ne sais pas, peut-être médiocre, alors, parce que je ne vois pas bien le rapport, parce que là, évidemment, on se demande pourquoi des renvois à ces mots. Mais tout simplement parce que je vais trouver, alors, un médiocre, je fais l'exercice avec vous, alors, il faut que je trouve, hein.
Oui.
Voilà, alors, bon, là, vous allez être un peu outré, parce qu'il m'est arrivé de mettre du Coluche. Et
je vois rien là d'outrancier.
Bon, alors là, c'est un extrait de Coluche. Ce qui est bien, c'est que les gens se reconnaissent en moi. Les plus bêtes, les plus laids se disent « Si un mec comme ça peut réussir, pourquoi pas moi ? Je suis l'idéal des médiocres. » Et bon, c'était pour médiocre, mais on a comme ça de temps en temps des surprises. Hein. Et...
Bien, et bien, Jean.
En le feuilletant, vous savez, je redécouvre mes propres dictionnaires de l'Académie pour l'article médecin.
Oui.
On est en 1835 et il a pris un médecin qu'il a envoyé ad patres.
Ah.
Donc, vous voyez, c'est la confiance qu'on avait dans les médecins au XVIIIe siècle. Oui. Et là, vous avez.
Pas plus qu'avant.
Pour médecin, par exemple, voir. Agir, dupe, écriture, encrier, beauté, croix, école, gorge, médicaments, mélancolie, ordonnée, poète, solitaire, système, tant pis, tour d'esprit, tuberculose, tuer, vérité, vain. Et donc, on voit bien, là, on est surpris quand on voit tuberculose, je me souviens pourquoi, parce que c'est, je crois, un extrait de 1905 où c'était la maladie terrible du moment et... Le médecin me donne un remède dont on use dans la tuberculose, c'est consolant, dit Georges Bernanos dans Lettre à l'abbé Lagrange en 1906. Et alors, dans le petit Larousse illustré en 1905, la tuberculose n'est pas toujours incurable.
Donc, vous voyez l'optimisme.
Espoir. Voilà, ça c'est typiquement.
Quelque espoir subsiste. Bon, eh bien, Jean, mot thème, étymologie du mot, son histoire, des pensées d'écrivains du XVIe au XXIe siècle, présentées par ordre chronologique. Des extraits de dictionnaires anciens, des pensées de personnalités autres qu'écrivains, les renvois. On voit bien tout ce qui enrichit chaque mot clé.
Oui. Bon, je crois que ça fait un dictionnaire. En tout cas, je vais vous faire un aveu. Il m'arrive donc de faire des chroniques. Et j'oublie toujours de regarder mon dictionnaire.
Oui.
Je regarde les dictionnaires des autres, les dictionnaires de citation des autres. Et depuis peu, je me dis, mais quand même, je pourrais regarder mon dictionnaire.
Oui.
Et en fait, ça m'arrive donc de puiser des citations dans mon propre dictionnaire.
Oui,
mais tiens, je
ne
me souvenais plus que j'avais relevé cette idée. Il y en a une il y a quelques temps là où...
Vous continuez à en relever ?
Oui, j'en relève parce que l'idée... Vous savez, quand on a
qui viendra grossir la prochaine édition.
On a envie de faire un second dictionnaire. Et je pense à orthographe.
Oui.
Et dans Jean-Marie Gouriot, l'intégrale des brèves, que j'ai ajouté parfois aussi dans Et les pensées d'eux, il y a des choses presque émouvantes. La faute d'orthographe sur un mot, c'est comme quand nous, on a un bras plus long que l'autre ou un bouton sur le nez. On vit comme ça. Faut pas jeter le mot pour autant. Il a le droit de vivre, même mal formé, le mot. Donc, vous voyez, là, parfois, c'est dire, bon, ne jetons pas les mots, corrigeons la faute d'orthographe,
oui,
mais ne le tuons pas. Donc, bon, tout ça, ça manque. Alors, c'est parce que j'ai aussi une autre de Jean-Marie Gouriot qui me plaît beaucoup. Je pense à Champignon.
Champignon.
Alors, voilà Victor Hugo. L'herbe sent tressaillir les monstres cryptogames. L'informe champignon chante un chant inconnu. Bon, c'est du Victor Hugo, on est bien dans Théâtre en liberté. Dans les dictionnaires anciens, Antoine Furtière, manière de petit potiron qui vient dans les champs sans être semé.
De petit potiron.
De petit potiron, voilà comment c'est défini, et dont on se sert dans les ragoûts. Et puis, et les pensées d'eux, c'est tiré de Jean-Marie Gouriot, enfin de l'intégrale des brèves de comptoir. Il cultive le champignon de Paris dans des souterrains, ce qui lui donne son air de prisonnier politique.
ça
manque pas de charme.
Non, Pour conclure, Jean Prévost, puisqu'il faut bien conclure, et avant de nous séparer, vous allez nous dire quelles sont vos citations préférées. Vous nous en avez déjà donné beaucoup. Faites-nous partager ces préférences.
Oh, alors là, je suis pris un peu au piège parce que...
Allez, quelques-unes.
Quelques-unes, alors... Être grave dans sa jeunesse, cela se paie, souvent par une nouvelle jeunesse dans l'âge mûr. Ça, c'est Paul Léoto qui disait ça dans passe-temps. Et je trouve que c'est assez juste. Il faut être joyeux, heureux dans sa jeunesse, parce qu'après, c'est un peu tard.
Oui.
Maurice de Guérin, je suis à la page jeunesse. La jeunesse est semblable aux forêts verdoyantes, tourmentées par les vents. Elle agite de tous côtés les riches présents de la vie, et toujours quelques profonds murmures règnent dans son feuillage. Je trouve que c'est des jolis messages d'espoir. Et alors, tout à l'heure, j'ai évoqué Maurice Delaporte. Je vais rester sur la jeunesse, hein, puisque finalement, c'est notre avenir. On se sent tous jeunes, quel âge qu'on ait. Maurice Delaporte, je le rappelle, était l'auteur d'un dictionnaire, le premier, dans le fond, dictionnaire d'épithètes. Hein, alors, jeunesse ou jouvence, folle, blonde, débauchée, indocile, adextre, éveillée, folâtre, belle, prompte, sotte, verte, robuste, indomptable, dorée, lacine, tendre, vigoureuse, inexperte, florissante, amoureuse. Bon, je crois que c'est ça, l'éternelle jeunesse amoureuse.
Joli. Ce fut comme toujours, cher Jean Prévost, un plaisir de vous recevoir à Canal Academy. Et que je suis aujourd'hui, grâce à vous, un peu marraine fée.
Oh, boulette.
Laissez-moi souhaiter à votre dictionnaire bonne et longue vie.
Merci Anne-Françoise, c'est la plus belle des citations.